D'accord. Donc, merci beaucoup. Comme vous le savez, donc, le sommet de Dakar sur le financement a été reporté lors de la session prévue au mois de décembre. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un décompte qui a été fait. Et donc, les organisateurs se sont rendus compte que les agendas des chefs d'État invités ne permettaient pas qu'il y ait suffisamment de représentation au niveau chef d'État africain pour pouvoir porter aussi ces projets-là. Donc, le gouvernement du Sénégal, très sagement, a décidé donc de reporter ce sommet-là, sachant qu'on était dans une perspective aussi reculée pour mieux sauter. Donc, ça aurait permis aussi de continuer l'exercice d'interaction, d'approche auprès des autres chefs d'État pour assurer, garantir une participation suffisante au niveau politique, d'une part, et aussi une meilleure participation de la partie secteur privé. Donc, c'est ça qui a justifié le report du sommet de Dakar sur le financement.
Oui, mais M. Bello, la menace par là encore à prendre hein, pour ce qui est du sommet qui va se tenir du 14 au 15. Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, je pense pas que la mayonnaise tarde à prendre, parce que nous avons eu et nous sommes extrêmement sollicités sur le processus. Donc, nous tablons environ sur 400 personnes et manifestement, ce sera à peu près le niveau de participation. Donc là, je parle au niveau du volume, mais même au niveau de la qualité de la participation, parce qu'il y a beaucoup d'institutions régionales de développement qui ont marqué leur intérêt. Il y a beaucoup de participants du secteur privé qui ont aussi marqué leur intérêt, au-delà même du continent africain. Donc, il y a des partenaires aussi, hors Afrique, qui sont fortement mobilisés, qui sollicitent un rôle, notamment, dans ce processus-là. Donc, peut-être que nous ne voyons pas la question sur le même angle, mais je peux vous garantir que sur le plan de la mobilisation, la mayonnaise a fait plus que bien prendre, je pense.
Quelles sont les institutions financières qui seront là, les sommités qui seront présentes et les chefs d'État qui ont confirmé?
Donc, les institutions qui seront présentes, un certain nombre ont été approchées, sans même ont même marqué l'intérêt pour être partenaire de ce processus-là. Donc, parmi les institutions, vous avez la Banque africaine de développement, vous avez la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, vous avez le PNUD, vous avez la Banque mondiale, entre autres, qui ont fortement marqué leur intérêt et qui sont partis du processus. Donc, à ce niveau-là, parmi les personnalités, je peux vous dire que oui, le président de la BAD sera là, le secrétaire exécutif de la CEA sera là, le vice-président de la Banque mondiale sera présent, le secrétaire exécutif du NEPAD sera là, naturellement. Exactement. Donc, à ce niveau-là, vous voyez que au plus haut niveau des institutions africaines, il y a une participation qui est confirmée. Ensuite, oui, il y a les présidents de certaines communautés économiques régionales qui ont aussi marqué leur intérêt et qui ont informé officiellement qu'ils seront là avec une très bonne représentation. Donc, vous avez la CDAO, vous avez l'UEMOA, entre autres, qui aussi ont marqué un intérêt. Plus un certain nombre de chefs d'État. Concernant les chefs d'État, nous espérons avoir entre guillemets une demi-douzaine à peu près. Mais comme vous le savez, l'agenda des chefs d'État reste aussi relativement, comment dire, difficile à suivre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il faut qu'on continue donc à faire le point avec les représentations diplomatiques pour s'assurer et avoir la confirmation des chefs d'État présents. Mais nous aurons un point de situation. Nous en saurons plus, je pense, au niveau chef d'État, de qui vient très probablement vendredi à la mi-journée. Il y a un processus d'interaction, de consultation qui est en train d'être fait, on va dire, par les autorités, et avec l'appui en réserve du Népal, pour valider certaines confirmations.
Monsieur Bello, ne craignez-vous pas un surgissement de calendrier avec le sommet des chefs d'État et du gouvernement prévu à Malabo? Est-ce que cela ne risque pas un peu, disons, de porter un sacré coup à cette rencontre-là?
Non, pas du tout. En fait, je dirais même qu'il faut voir ça sur le plan de la séquence. Le président Macky Sall, c'est le président du Népal. Donc, il fait aussi un compte-rendu au chef d'État de l'Union africaine sur la mise en œuvre du Népal. Nous sommes d'accord. Donc, avoir le sommet de Dakar avant Malabo permet aussi de faire une restitution de quels auront été les résultats du sommet de Dakar, quels sont les engagements qui ont été validés et comment mobiliser le reste du continent au niveau des autres chefs d'État sur la mise en œuvre de ces engagements-là. Donc c'est cela qu'il faut. Il faut voir le processus sous cette séquence-là. Donc il n'y a pas de chevauchement. C'est même une séquence naturelle, quelque part.
Ok. Mais en fait, avant la tenue de cette rencontre-là, il y en a eu d'autres à Libreville, oui. Également à Brazzaville.
Oui.
Et également, il y a eu le Forum économique mondial sur l'Afrique, à Abuja, le 7 mai dernier. Mais est-ce que toutes ces rencontres-là n'ont pas vidé l'essence de cette rencontre-là? Je ne dirais pas table ronde, mais ce tour de table. Parce qu'il s'agit bien d'un tour de table des bailleurs.
Oui, en fait, je ne pense pas que ça ait vidé le sens ou le contenu. Pourquoi ? Avec tout le respect, les autres forums sont tout aussi importants pour la mobilisation des ressources, pour le financement des projets d'infrastructure en Afrique. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce qu'il faut voir dans cette séquence-là en particulier, c'est que ce sommet, ce forum, est porté par le président du Népal. Donc, comme je le dis, il y a une séquence. Les résultats du sommet de Dakar sont ensuite présentés dans les instants de l'Union africaine. Donc, sur cette base-là, il y aura des engagements au niveau de l'ensemble des chefs d'État africains pour continuer à poursuivre l'agenda du Népal, du PIDA, des infrastructures en Afrique. C'est sous cette séquence-là qu'il faut voir ça. Donc, pour nous, on ne voit pas un chevauchement ou bien une quelques concurrences ou compétitions qui soient.
Oui, mais la rencontre de Dakar avait été prévue bien avant les autres. Hein?
On est d'accord.
Donc, il y a eu quand même du retard.
C'est vrai. Nous avons, comme vous le savez, donc, nous avons dû reporter le sommet, mais cela ne signifie pas non plus que l'idée, le concept était mauvais. La preuve, comme vous le dites, il y a des États qui ont pris cette initiative pour développer le programme des infrastructures, l'agenda des infrastructures, soit dans leur pays, dans leur région, entre autres. Donc, oui, il y a un effet temporel qui a eu lieu, mais ça ne doit pas nous empêcher d'arrêter le processus à notre niveau. Et comme je vous le dis, nous sommes dans une rationalité qui est une rationalité, entre guillemets, népalienne, qui s'inscrit dans les instances de l'Union africaine, et dans ce cas, qui a vocation aussi à devenir un engagement plus continental et plus intégrateur.
L'idée du report est venu de qui ? Du Népal ou de Dakar ?
Je dirais que c'est...
Parce que Dakar n'était pas réellement prêt pour accueillir aussi ce sommet.
Vous savez, ce qu'il faut...
Son excellence, vous pouvez ajouter un...
ce qu'il faut prendre en considération, ce qu'il faut considérer, c'est que nous souhaitons que le sommet soit un succès. Nous sommes d'accord. Donc, ce qu'il faut considérer à ce niveau-là, c'est que si, au moment de décembre, ce qu'on peut appeler les conditions, les facteurs de réussite n'étaient pas suffisamment présents, c'est-à-dire, comme on l'a dit, la présence suffisante de chefs d'État, etc., etc. Donc, si effectivement cette masse critique du point de vue organisationnel n'était pas suffisante, il était tout à fait compréhensible que ce sommet soit reporté. Comme on l'a dit initialement, le but aussi c'est reculer pour mieux sauter. Donc là, à ce niveau-là, nous pouvons dire que nous avons atteint un degré de maturité, de préparation, d'engagement, de mobilisation des différentes parties pour assurer donc une réussite du sommet avec l'appui de l'ensemble des parties prenantes que j'ai citées tout à l'heure. Donc pour nous, il n'y a vraiment aucun souci, aucune difficulté.
Ok, mais Son Excellence, apparemment le report c'est une idée de Dakar. Dakar qui n'était pas vraiment prêt pour tenir le sommet.
Je pense que mon collègue Bello a tout dit. Hein. Je ne peux pas ajouter grand-chose à ce qu'il vient de dire.
Oui, mais Dakar quand même abrite. Et donc l'organisation pratique, c'est à ce niveau-là. Et qu'est-ce que Dakar n'a pas pu organiser ou quoi? Or, quand même, nous connaissons tous la longue tradition sénégalaise, pour ce qui est des rencontres internationales.
Vous savez, si je peux me permettre, le report d'un événement ou d'un sommet, ce n'est pas un blâme en soi, c'est pas une. C'est, on regarde, est-ce que les conditions prérequises ou les prérequis sont là? Oui ou non? Les facteurs de succès sont-ils là ou non? Si les organisateurs disent, bon, voici nos objectifs, les objectifs sont 1 ou 3. Manifestement, au vu de la masse critique qu'on a, l'impact risque de ne pas être atteint. On dit ok, on reporte et puis on se concentre pour mieux faire. Donc il ne faut pas, je pense, que nous voyons ça comme un deus ex machina où on dit bon, ça y est, c'est la fin. Et puis, non. Je pense que dans tout ce que l'on fait, si jamais il y a des difficultés ou il y a des arrêts ou des changements, il faut plutôt qu'on voit ça comme une opportunité pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer et renforcer les processus. C'est pourquoi nous sommes aussi aujourd'hui à Dakar au mois de juin.
Et cette fois-ci, les conditions sont bien réunies.
Nous pensons que les conditions sont réunies. La preuve, nous sommes là. Comme je l'ai dit, nous tablons sur environ 400 personnes. Nous pensons que ce sont 400 personnes pour lesquelles nous sommes quasi assurés que les confirmations sont là, les inscriptions sont là. Donc,
oui, mais en fait, que dites-vous de la perte sèche connue en décembre, près de 400 billets émis et puis les gens n'ont pas pu venir, et les affiches tirées, posées, et finalement, tout a été reporté à la dernière minute. Et même ce sommet-là, bon, il avait failli être reporté, mais le président a tenu que ça puisse se faire.
Je ne sais pas si ce sommet a failli être reporté. Honnêtement, je ne sais pas et je ne le pense pas. Mais bon, ça c'est ma propre subjectivité, on va dire. Parce que je n'ai pas d'éléments tangibles pour répondre dans un sens ou dans l'autre. Oui, il y a eu des pertes, nous sommes d'accord. Ça a affecté beaucoup de gens, les participants, etc. Ensuite, je ne peux pas vous donner le montant ou le coût de ce changement-là. Donc c'est quelque chose que ce sont les matières, les informations que moi je n'ai pas analysé. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a 400 billets d'avion qui ont été annulés. Je n'ai pas cette information.
D'accord. Mais quel est le link entre ce sommet et, disons, je ne dirais pas table ronde, mais le tour de table des bailleurs que le président Wade avait organisé en 2008 à Sali?
C'est une bonne question. Je pense que on peut voir un élément bien précis. Quel est le contexte qui a amené à la mise en place ou au lancement du sommet de Dakar sur le financement? Il y a deux grands ensembles. Le premier ensemble, l'Union africaine, le chef d'État de l'Union africaine, ont demandé au Népal de travailler de concert avec la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement, le PNUD, travailler sur ce qu'on va appeler des mécanismes innovants pour le financement des projets africains régionaux, par ce qu'on appelle la mobilisation des ressources domestiques. Entre autres, comme vous le savez, en Éthiopie, à l'époque, le Premier ministre Meles Zenawi a lancé ce qu'on appelle des diaspora bonds. Donc ce sont des obligations par la diaspora qui ont été titrisées, qui ont permis, entre autres, de boucler le financement du projet d'infrastructure, le projet de barrage de renaissance. Donc ce projet a une capacité de 5600 mégawatts à peu près. Donc c'est 3 centrales nucléaires de type européen en termes de capacité. Donc les gens ont dit pourquoi ne pas penser à des mécanismes africains, mécanismes de financement africains, domestiques, pour financer les projets régionaux. Donc ça, c'est un élément. le NEPAD a travaillé avec les différentes parties que j'ai citées. Nous avons présenté un rapport l'année dernière où ces modèles ont été mis en exergue, etc. Donc ça, c'est un chantier. Le deuxième chantier, et donc c'est pour ça que vous parlez de 2008, donc là on est en 2010-2011, ouais. Et le rapport a été donc soumis en 2013. Mmh. Ensuite, il y a le PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Mmh. Il y a un programme continental d'intégration régionale sur les infrastructures qui contient 51 projets, qui sont des programmes en fait. Donc, le programme de PIDA a été approuvé par l'Union africaine en 2012. Donc, voyez un peu la séquence temporelle. Donc, l'idée, à un moment donné, c'était de mettre en adéquation les deux processus. Mmh. Il y a une problématique sur le PIDA. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le PIDA, il y a les programmes d'action prioritaire. Donc, ces programmes d'action prioritaire sont à l'orée 2020. Donc, ces 51 programmes, ont vocation à être financés d'ici 2020. Pour un montant de 69 milliards de dollars. Donc, la question du financement devenait aussi très, très prégnante. Donc, d'où l'apport ou l'intérêt d'utiliser donc, ces mécanismes pour faire financer ces programmes. Ensuite, donc, nous avons décortiqué ces programmes pour venir avec ce qu'on peut appeler des quick wins, des low-hanging fruits. Donc, des projets qui sont suffisamment mûrs pour attirer le financement du secteur privé et pour lesquels ce type de mécanismes innovants peut être mis en place. Donc, nous ne sommes plus dans l'approche, si on peut dire, de 2008. L'approche de 2008 était à l'époque même une approche totalement innovante. Mais les conditions de l'époque, sur le plan des mécanismes existants, peut-être ne permettaient pas suffisamment la déclinaison et la mise en œuvre de ce qui a été attendu ou qui est sorti de 2008. Donc là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, quand on parlait de la séquence, c'est pour ça que la séquence Dakar-Malabo, elle est extrêmement importante. Parce qu'il va y avoir ce qu'on va appeler un momentum. En sortant de Dakar, une semaine après, il y a Malabo. Donc, on va pouvoir battre le fer pendant qu'il est encore chaud et aller de l'avant, sachant que les mécanismes existent déjà. Et donc, et pour une fois, ou pour une des rares fois, il y a une étude qui fait des recommandations et qui ne reste pas, comme on dit en anglais, on the shelf. Où on ne dit pas, oui, bon, merci bien, c'est une très bonne étude. On range ça dans un tiroir et ensuite on commande une autre étude qui ressemble plus ou moins à la même. Là, ce qu'on a fait, c'est que les orientations de cette étude ont directement été, ou sont en train d'être directement mises en place. Donc, c'est ça aussi le sommet de Paris.
D'accord. Entre 2000 et maintenant, y a-t-il des milliards qui sont tombés dans l'escarcelle du PIDA? Combien, en fait, qu'est-ce qui a été mobilisé? Combien de milliards ont été mobilisés réellement?
Entre.
Oui, depuis que ça a été mis en place. Parce que, en fait, il y a une évolution des termes. On parle de table ronde, on ne parle plus de table ronde, on parle de tour de table, on parle de sommet. Est-ce qu'il y a eu une évolution du point de vue financier?
Sur, vous voulez dire, le financement même?
Oui, pour le financement des infrastructures.
Oui, sur le financement des infrastructures, oui. Je peux vous donner. Je n'ai pas le volume total, mais je peux vous donner quelques cas où les financements ont été achevés et où donc, les projets sont en cours de finalisation. Je vous donne un exemple. Parmi les projets d'infrastructure, il y a ce qu'on appelle le corridor Lagos-Alger. Donc un projet qu'on appelle une transsaharienne en fait. Donc il y a trois composantes, une composante pivotique, gaz et route. Par exemple, sur la partie gaz, sur la partie routière, il y avait un gap en financement pour financer la construction de 150 km. D'accord ? Le projet de 150 km, il y a eu une mobilisation entre les différents États de la région, Banque de développement, la BAD notamment, pour venir avec un budget pour finaliser ce projet-là. Donc, il y a eu un accord entre la Banque africaine de développement et la BADEA, donc la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, pour mettre en commun des ressources pour clôturer ce financement.
Donc, le financement est bouclé?
Ce financement est bouclé et le projet est en train d'être finalisé parce que la phase de construction est en cours. Donc, probablement, d'ici l'an prochain, d'ici la fin de l'année même, certainement, le projet sera complètement achevé. Donc, il y a des réalisations qui marquent l'intérêt et puis qui sont en train d'être...
C'est le même bas de financement. En même temps, les corridors et les terminaux gaziers et tout ça sont en cours de construction.
Le corridor, la partie route, oui. Ensuite, la partie gaz, l'année dernière, le Nigeria a émis, donc a fait une émission obligataire, si ma mémoire est bonne, d'environ 2 milliards d'euros pour financer cette composante gazière. Donc, je pense que donc, les phases de construction, etc., donc, sont maintenant à être mises en œuvre, sachant qu'ils sont aussi portés par les chefs d'État des différentes régions, donc, par le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Donc, cette émission obligataire, donc justement, c'est aussi un autre mécanisme bon, qui existait déjà, peut-être de façon intuitive, et qui marque encore un intérêt, et puis qui démontre aussi sa capacité, son efficacité.
Monsieur Bello, quand on parle de Népal, de l'UA, on pense à l'Afrique, aux Africains.
Tout à fait.
Et pour, disons, les relations médias, la communication de ce sommet, ça a été confié à des Français, notamment GL20.
Oui.
Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce qu'il n'y a pas une expertise locale ou africaine capable de faire cela ou quoi? Qu'est-ce qui justifie vraiment le recours à une expertise étrangère ou européenne?
C'est une bonne question. Vous savez, l'agence du Népad, nous sommes basés en Afrique du Sud. Donc, nous travaillons de concert avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, nous sommes prêts à travailler avec quiconque est intéressé, motivé sur les agendas africains. Ensuite, je ne peux pas nécessairement me prononcer sur les sélections ou ce qui relève aussi de la souveraineté du gouvernement du Sénégal. Donc, je pense que jusqu'ici, le travail que nous faisons avec eux, c'est un travail qui a été extrêmement utile, extrêmement efficace. Donc, dans l'interaction, nous n'avons aucune difficulté avec eux. Ils ont fait preuve de très grand...
C'est le Sénégal qui a choisi l'agence, d'un
très grand professionnalisme. Donc, pour nous, nous sommes dans un principe qui s'inscrit dans l'efficacité.
Donc, oui, mais ne pensez-vous pas, M. Bello, en tant qu'Africain, je vous ai vu, en tout cas, à l'œuvre, à maintes reprises. À maintes reprises, j'ai été à 10, à Joburg, Pretoria et autres. Et donc, je vous ai vu à l'œuvre. J'ai également vu, disons, le secrétariat et beaucoup d'autres fils africains. On sent le potentiel, on sent l'envie et tout. Mais pourquoi, à chaque fois, quand il s'agit de contracter, d'accomplir, d'exécuter une tâche, on pense souvent aux Européens. Et pensez-vous pas, en fait, qu'il doit y avoir des mécanismes intra-africains qui pousseraient, en tout cas, à d'abord privilégier l'expertise locale, en parlant de l'Afrique, continent tout entier, avant de penser à d'autres? Parce qu'eux aussi, quand ils financent, ils pensent d'abord à eux. Ah oui?
Oui, non, vous savez, je pense avoir déjà répondu. Je sais que vous voulez renforcer
votre avis.
Ce que moi je peux vous dire, c'est que je ne pense pas, de mon très humble point de vue personnel, que le gouvernement du Sénégal... Bon, je ne pense pas que le gouvernement du Sénégal ait cherché nécessairement... une compagnie européenne ou autre. Je pense qu'il y a eu une réflexion qui a été faite. Cette réflexion a mené au choix d'une agence d'événementiel. Pour nous, ce qui était important, il était important qu'il y ait des professionnels qui puissent faire le travail organisationnel, logistique sur place. Ensuite, sur le choix, comme je vous le dis, nous ne sommes pas nécessairement partie prenante, donc nous ne pouvons pas nous impliquer dans une discussion qui relève d'une décision souveraine d'un pays. C'est pas notre rôle.
Oui, dernière question. En fait, tout à fait au début, je vous disais que la mayonnaise n'a pas encore pris. Effectivement, parce qu'à Dakar, en tout cas, on ne sent vraiment pas encore la tenue de cette rencontre internationale. On ne voit pas d'affiches, on ne voit pas de bannières dans les sites web, encore moins de paritions dans les journaux. Donc, pensez-vous vraiment qu'il y a cette efficacité dont vous parlez? Parce que quand même, une rencontre internationale, au moins, ça doit se sentir dans un pays. Et puis dans les médias également, les gens devraient en parler, mais oui. C'est pas encore le cas.
Oui. Juste à la télévision, à chaque fin du journal télévisé, il y a...
C'est l'Arthès, ça c'est l'Arthès. Hein. Oui. Là oui, la télévision nationale, oui. Mais je parle des médias de manière générale. Moi c'est parce que je suis ces questions-là, que je suis au courant et que j'en parle comme ça.
Oui, vous savez, il y a quand même eu des interactions avec la presse à différentes reprises. L'ambassadeur Diallo a mentionné donc, les spots qui sont... dans la RTS, ça c'est un élément. Il y a eu une séance de travail qui a eu lieu il y a une semaine, 10 jours, qui a duré, je pense, une bonne demi-journée, si ce n'est avec les journalistes économiques. Donc, je pense qu'il y a un processus qui existe sur le plan de la communication. Ensuite, vous mettez en doute... Oui, il y a les campagnes avec Jeune Afrique. Donc, peut-être vous mettez en doute la partie de l'efficacité. Bon, moi, je vous donne le retour que j'ai que nous avons dans les activités, les travaux qu'on a. Donc, pour nous, ils sont très bons, efficaces. Donc, et comme je le dis, donc, on ne va pas s'immiscer ensuite dans d'autres considérations ou mécanismes de décision. C'est une chose. Ensuite, si vous permettez pour conclure, l'efficacité du processus du système, nous sommes aujourd'hui mercredi 11, on verra déjà un premier indicateur à la fin du sommet. Ensuite, on verra un autre indicateur dans la mise en œuvre des engagements de ce sommet. Donc je pense qu'il nous faut aussi aller au-delà de certains points qui peuvent sur le moment paraître importants, mais il faut qu'on voit aussi quelle est la perspective. Et je pense que c'est sur la perspective que nous devons nous inscrire.
Merci. Excusez-moi.